car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non.
Mais que diable est-il faire dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Y avait-il quoi d'autre problème?
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois de décembre de Scène de vie, vie de scène, l'émission qui prend son temps, une émission coproduite avec le Tangramme et Principe Actif. Bonjour Cécile, bonjour Nathalie.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Ce mois-ci d'ailleurs, dans Scène de vie, vie de scène, nous aurons l'occasion de parler de veille.
Oui, tout à fait. Nous accueillons ici en plateau, Yannick Ménil. Vous avez été veilleur et vous êtes maintenant accompagnateur de veilleurs. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Paul-Emmanuel Quéré, vous avez été veilleur, bienvenue.
Merci.
Et Catherine Hurst, vous êtes future veilleuse.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Nous parlerons aussi programmation du Silo à Verneuil-sur-Avre.
Oui, nous aurons au téléphone Jimmy Fauvel, programmateur de la salle et du Silo à Verneuil-sur-Avre, qui nous présentera son travail et sa prochaine programmation.
Et on espère sa vision sur la programmation du Silo à Verneuil-sur-Avre. Nous retrouverons nos rubriques habituelles, à savoir l'agenda non exhaustif de ce qui va se passer au mois de décembre.
Une sélection concoctée par nos soins.
Et nous terminerons avec le traditionnel extrait de film. Mais on n'en dit pas plus, bien entendu, on le laissera découvrir à la fin.
Voilà, exactement.
Mais tout de suite, sans plus attendre, nous avons une autre tradition. C'est un extrait sonore, un moment de vie capté par nos micros.
Le soir, la maman de Tinoulou le couche en lui faisant des bisous, des câlins, des guilis. Parfois, lui raconte une histoire, lui remplit son verre d'eau, allume sa petite lampe et veille à ce qu'il ait son doudou tout près de lui.
Mais après quelques minutes, elle entend le grincement de sa porte et de ses pas dans le couloir. Tinoulou est debout.
Il invente toutes sortes de choses pour ne pas dormir.
Il a chaud, il a froid, il a soif ou il a peur.
Il invente des monstres sous le lit ou dans l'armoire, entend tout en bas des bruits effrayants, se crée des problèmes qui n'existent pas.
Alors, JC, où étions-nous? Et qu'avons-nous écouté?
Alors, nous étions au Salon du Livre de Jeunesse qui se déroulait ce week-end au Cadran d'Evreux. Alors, l'occasion, bien sûr, de rencontrer les auteurs, les illustrateurs, un éditeur, d'ailleurs, rue du Monde. Enfin, voilà, l'occasion de rencontrer tous ceux qui faisaient les livres. Mais un livre, et notamment pour les plus petits, bah, ça se vit. Et là, nous étions au Raconte-Tapis. Alors, les Raconte-Tapis, ce sont des animations proposées par la médiathèque. Donc là, c'était deux bibliothécaires de la médiathèque qui racontait des histoires aux plus jeunes sur un support de tapis. C'est-à-dire que sur le tapis est lié à un ouvrage en particulier. Et puis, il y a des aménagements sur ce tapis-là qui aident à suivre l'histoire. Et puis, qui fait... On est à mi-chemin entre le théâtre, la marionnette et l'histoire à proprement parler. Ce sont des petits supports pour les enfants. Alors ça cartonne. Hein. Il y avait des séances toutes les demi-heures. C'était plein à chaque fois. Et ça permet aussi d'avoir un contact peut-être plus évident pour les petits avec le livre. Voilà, tout simplement. Et ce qui est déjà plutôt pas mal. Alors, j'ai oublié de rappeler, bien sûr, ces émissions que nous avons réalisées à l'occasion du Salon du Livre Jeunesse sont retrouvables très rapidement, très prochainement, sur les podcasts de Principe Actif. Et il y a tout un tas d'échanges très riches à écouter, à découvrir ou à redécouvrir. Voilà pour cette petite partie. Je vous propose que nous allions directement sur notre toute première pause musicale avant d'ouvrir un peu plus largement sur le projet des Veilleurs. Le choix de la programmation musicale, Nathalie.
Oui, j'avais envie de vous proposer un morceau qu'on connaît tous, Yé Yé de John Hendrix. Pourquoi ? Parce que John Hendrix est décédé, est mort là cette semaine, et c'était un super chanteur de jazz et de soul américaine. Et voilà, c'est un hommage, clin d'œil à cette voix.
Every evening, when all my days were just through, I call my baby and ask her what should we do. I mention movies, but she don't seem to dig that. Then she asks me, why don't I come to her flat and have some supper and let the evening pass by? By digging records, beside a groovy hi-fi. I say, yeah, yeah, and that's what I say, yeah, yeah. My baby loves me, she gets me feeling so fine. The way she loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives it all that she got. No need to ask me if everything is okay. I got my answer, the only thing I can say. I say yeah, yeah, and that's what I say yeah, yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so none can see. We gotta do that, we gotta do that, we gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except for you and me. Yeah, 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 yeah. Oh, pretty baby, I never knew such a thrill. It's hard to tell you because I'm trembling still. But pretty baby, I want you all for my own. I'm even ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer, the only thing I can say. I say yeah. I say yeah, yeah, I say yeah, yeah, baby, say yeah, 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 mama, say yeah, yeah, I say yeah, 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 I'm pretty, baby, yeah, mama, yeah, 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 I say yeah, yeah, I say yeah, 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 well, I say yeah, yeah, I say woo.
John Hendrix avec un titre que j'aurais pu très bien prononcer, hein, Yé Yé Yé. Nathalie, nous retrouvons donc la partie autour des Veilleurs. En quelques mots, qu'est-ce que ce projet des Veilleurs ?
Alors, vous en avez peut-être entendu parler diverses voix. Vous avez peut-être vu une cabane en bois posée sur le toit du parking de la place Clémenceau. Eh bien oui, les Veilleurs d'Évreux, c'est un grand projet participatif c'était un projet d'une artiste, Joanne Letton, qui est une chorégraphe et qui propose... pour les personnes qui le souhaitent, de venir veiller pendant une heure, soit au lever du soleil le matin, soit au coucher du soleil le soir, veiller sa ville dans cette cabane en bois, cet objet abri qui est posé en hauteur sur un point de vue du centre-ville, et vivre cette expérience, donner de son temps, une heure de son temps, à ne rien faire, si ce n'est observer, On a laissé son téléphone portable, sa montre, son appareil photo, enfin tout ce qui peut nous connecter à sa radio. Voilà, on est vraiment avec soi et avec le paysage, l'environnement qui nous est donné à voir et observer. Voilà.
Alors, ne rien faire, on va savoir si c'est réellement le cas ou pas. Nous recevons justement Yannick Ménil, Paul-Emmanuel Quéré et Catherine Hurst. Je ne sais pas si je prononce bien, pardon. Là, je me suis lancé comme ça et très bien. Justement, pour voir si c'est réellement ne rien faire, Nathalie, car ce sont donc deux veilleurs et une future veilleuse que nous recevons aujourd'hui en plateau. Tout d'abord, dans la présentation que vient de faire Nathalie du projet, et là pour le coup je m'adresse à vous trois, vous reconnaissez dans cette présentation autour des veilleurs et notamment sur cette notion de rien faire sur la veille?
Ouais, complètement.
Yannick.
Moi j'y rajouterais également qu'on est dans un axe est-ouest qui nous permet d'avoir vraiment une vision sur le lever et le coucher du soleil. Et après, ne rien faire, tout dépend de ce que l'on ressent. C'est vrai qu'au départ, peut-être que le regard part un petit peu partout parce que c'est nouveau, la vision est nouvelle. On est face à Netreville, qui est des coteaux que l'on découvre aussi par rapport à ceux de Saint-Michel, par exemple. Après, le regard se pose un peu, rentre un peu plus dans le détail. Et puis au bout de 30 minutes, 40 minutes, ça dépend des gens, on est face à soi-même aussi. C'est aussi ça qui est important. Et la particularité de l'expérience, que j'appelle moi expérience, c'est aussi d'être complètement déconnecté de tout pendant une heure. Dans la vie de tous les jours, ça n'arrive pas. Vous avez toujours quelque chose, un téléphone, une musique. Là, vous êtes face à vous-même pendant le temps qui reste et c'est aussi particulier.
Paul-Emmanuel, c'est comme ça que vous l'avez vécu aussi ?
Oui, exactement. Moi, je rajouterais que ne rien faire, effectivement, le corps ne fait rien, mais par contre, le regard est extrêmement actif. Donc, ne rien faire, c'est quand même à nuancer, parce que finalement, les yeux sont très, très actifs lors de cette veille.
Peut-être même nous rendrions-nous compte que ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Catherine, alors vous n'avez pas encore veillé.
J'ai hâte.
Vous avez rejoint ce projet, ça fait partie de ces attentes-là. Comment vous l'appréhendez sans l'avoir fait encore, finalement, cette veille?
Moi, je me dis que ça va être physique, parce que même si c'est... Nathalie m'a expliqué, parce qu'il y a une réunion de préparation... Et donc, il y a un espace. Moi, je suis très grande. Donc, j'ai toujours besoin que ça soit grand. Et je ne sais pas du tout... J'ai pensé que je mettrais des chaussettes de contention. Parce qu'on ne bouge pas tant que ça. Alors, je me suis dit, bon, il faut que je tienne le coup, une heure... Mais bon, j'aime bien aussi, j'ai un côté contemplatif, voyeur, voilà, ça m'intéresse.
Alors, voilà, puis ce projet qui est quand même un projet, une expérience inédite, insolite, inhabituelle, parce que voilà, on est dans un vrai projet artistique, hein. C'est une artiste, Joanne Layton, qui le propose, qui a pensé quand même cette proposition. Moi, j'avais envie de vous interroger sur... Comment vous êtes venu au veilleur? Par quel biais vous en avez entendu parler? Qu'est-ce que ça a titillé chez vous? Questionné? Enfin voilà. Les veilleurs, vous y êtes venu comment? Chacun de vous?
Alors moi, j'y suis venu parce que je m'intéresse à la culture hébroïcienne et au projet que développe le Tangram. Donc voilà, j'ai accroché tout de suite parce que je me suis dit un an, et puis j'ai ciblé le premier jour de l'automne, voilà, tout simplement. Bon, c'est vrai que j'ai eu un coucher de soleil magnifique. Donc voilà, j'y suis venu rapidement et puis c'est vrai que j'ai du temps maintenant qui peut être consacré à ce projet. Donc voilà comment je suis arrivé tout simplement au Tangram et aux veilleurs.
Moi j'ai appris l'existence de ce projet en discutant avec un ami. Et ce qui m'a donné envie d'y participer, c'était le côté très insolite et puis l'idée de passer une heure complètement déconnectée de la ville, de la vie, mais tout en restant visible. Enfin, il y a un jeu de regard qui est très intéressant, qui m'intéressait en tout cas sur la présentation du projet. Et oui, moi, le fait d'être complètement coupé et déconnecté de tout repère temporel pendant une heure, je trouvais ça très intéressant.
Moi, je le prends comme un jeu. Pour moi, c'est ludique. D'ailleurs, on a décidé, lors d'une représentation de théâtre, c'était Lulu, et on était trois copines, et de nouveau a été lancée l'idée pour rechercher des veilleurs, et on s'est regardé et on a dit, on le fait, voilà. Au départ, je ne me sentais pas assez... Ça m'intéressait, parce que moi, c'est toujours les choses extraordinaires qui me plaisent, ou insolites. Mais au départ, n'habitant pas Évreux, je me suis dit, c'est pour les gens d'Évreux. Parce que c'est les veilleurs d'Évreux. Mais je me suis aperçue que ce n'était pas rempli tant que ça. Donc voilà.
Donc s'il y a de la place, autant tenter l'expérience.
Ouais. Ouais, et puis il faut rappeler qu'effectivement, ça s'appelle les veilleurs d'Évreux, mais ce n'est pas exclusivement réservé aux Évreuxiens. Et c'est vraiment ouvert à tous, en fait, ce projet. Et n'importe qui, même quelqu'un qui vit sur Rouen et qui aurait envie de venir participer au projet... ça peut effectivement fonctionner. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a, je trouve, plusieurs visions, mais finalement, c'est un projet où on est seul, mais qu'on partage. Est-ce que, pourtant vous avez été seul hein, pendant une heure dans l'objet abri, est-ce que vous avez cette sensation-là d'avoir partagé quelque chose, alors avec peut-être votre accompagnateur avec les gens aussi qui étaient dans la rue. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ?
Oui, le partage est obligatoire dans ce projet, puisque de toute façon, c'est une chaîne. Donc déjà, c'est collectif. Alors, c'est à la fois très individuel, puisqu'on est quand même face à la ville d'Évreux et à soi-même pendant une heure, mais c'est collectif, parce qu'on sait qu'il y a une chaîne qui va jusqu'en septembre 2018. Donc l'idée, on appartient à un groupe, on appartient aussi à une communauté à un certain moment, hein. on peut aller jusque là. C'est aussi quand on accompagne, moi je croise des gens que je n'aurais jamais rencontrés de ma vie parce qu'on n'est pas du même milieu social, on fréquente pas les mêmes choses, etc. Et ça c'est très enrichissant, je trouve. Donc vraiment c'est un moment particulier, à la fois la veille mais également l'accompagnement, et ça c'est plutôt sympa.
Justement, je voulais revenir, moi, sur cette notion de lien, parce qu'en fait, il y a le veilleur, mais le veilleur accompagne, il y a des accompagnateurs aussi. Peut-être, Yannick, pouvez nous en parler un petit peu de cette fameuse chaîne, parce que finalement, le veilleur, c'est pas quelqu'un qui va arriver tout seul à un endroit, qui va ensuite faire sa veille et qui va repartir tout seul. Enfin, il y a toute une démarche derrière le relais. Enfin, il y a une histoire de relais.
Ouais, tout à fait. Je crois que le concept est vraiment très, très bien organisé, et c'est vrai que c'est du travail au quotidien. Franchement, ça va être chapeau. Ceux qui sont derrière. Parce que oui, en effet, il y a un accompagnateur à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient et qui veille sur le veilleur. C'est aussi, voilà, c'est aussi pendant une demi-heure, on explique, etc. Il y a un petit endroit très cosy, très sympa au niveau du troisième étage de ce parking qui a été très, très super bien aménagé avec des petits canapés. Il y a les petits chocolats, le café, enfin voilà, vraiment.
Un vrai accueil.
Ouais, vraiment un véritable accueil où on partage, on discute, on échange. Et puis après, l'accompagnateur amène le veilleur au niveau de cet outil abri, l'objet abri, voilà. Et puis on met le chauffage, on éclaire et puis on laisse le veilleur veiller pendant une heure, voilà. On vient vérifier au bout d'une demi-heure si tout se passe bien, sans le déranger au niveau sécurité, parce que c'est aussi, on est là aussi pour ça. Et puis après, on va le chercher quand l'heure est terminée. Et puis on le prend en photo, parce que c'est aussi immortaliser l'événement. On retourne ensuite dans ce petit lieu cosy où là, le veilleur va exprimer par écrit s'il a envie, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie, et sur ce cahier pour exprimer ce qu'il a vécu pendant une heure, comment il a ressenti les choses. Voilà, et puis après, on termine. Et puis, donc en tout, un accompagnateur, ouais, c'est 2 heures. Faut compter 2 heures, une demi-heure avant, une heure, et puis une demi-heure après. Après, ça peut aller plus loin, on peut continuer à discuter, boire un verre, enfin voilà. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs.
Donc oui, en plus d'avoir veillé, vous accompagnez régulièrement.
Après, il faut avoir du temps. Voilà.
Cet échange avec l'accompagnateur, du coup, puis ce rôle d'accompagnateur, Paul-Emmanuel, votre regard sur ce moment-là ?
Alors, moi, je n'ai pas tenu le rôle d'accompagnateur, mais il y a effectivement un échange avec l'accompagnateur, enfin l'accompagnatrice en l'occurrence dans mon cas, et il y a une forme de complicité qui se crée, puisqu'en fait, pendant la veille, comme ça a été très bien dit, on est absolument seul, mais on voit parfois l'accompagnateur apparaître dans un coin du champ de vision, sur le toit du parking. Et donc, en fait, c'est le seul lien tangible qu'on a avec le reste de la ville. C'est vraiment cet accompagnateur ou accompagnatrice qui est là pour nous rappeler que, voilà, on est en train d'avoir un rôle bien particulier, qu'on est dans une situation précise. Et donc, oui, il y a effectivement un rapport qui se crée avec, avec la personne qui nous accompagne.
Dans cet accompagnement, il y a aussi le temps de préparation en amont. Catherine, en quelques mots, en quoi il consiste ce temps en amont? Est-ce qu'il faut se mettre dans un état d'esprit particulier, du coup, pour devenir veilleur?
Alors, moi, ça a été particulier parce que je n'ai pas pu participer à une réunion collective de plusieurs veilleurs, futurs veilleurs. Donc, j'étais juste avec Nathalie en face de moi. Mais c'était intéressant, on a travaillé sur le corps, en fait. C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé, je lui ai dit, oh là là, il va falloir que je mette mes chaussettes. Mais non, c'est... Alors moi, du coup, comme je n'ai pas fait la réunion avec plusieurs personnes, plusieurs veilleurs, j'ai regretté parce que j'aurais voulu voir la tête des autres veilleurs et veilleuses. Et ce qui me plaît, c'est que la prochaine fois, il y a une réunion pour le premier trimestre. Et ça me fait plaisir, enfin, d'y participer. Parce que j'ai vraiment envie de voir... Ce que je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a pas plus de filles que de garçons? Parce que c'est un côté, je pense plus que les femmes peuvent veiller que les garçons. Voilà.
Ça a l'air d'étonner Paul. Paul Emmanuel a l'air étonné.
Réaction, messieurs.
Oui, mais ça m'étonne, parce que je vois pas vraiment en quoi est-ce que ça change quelque chose. Et puis surtout que, comme l'objet abri est éclairé, les personnes qui sont en dessous voient le veilleur ou la veilleuse, mais sont a priori incapables de déterminer son identité. On voit une forme, on voit une silhouette, mais incapable de dire qui est là-haut. Donc non, homme ou femme, je vois pas la...
Peut-être Yannick, une réaction avant.
C'est vrai que moi, j'ai fait peut-être une dizaine d'accompagnements. C'est vrai qu'il y a quand même plus de femmes.
D'accord. Donc quand même, finalement.
Je crois qu'il y a une approche quand même plus féminine. Ce serait faux de dire ça, mais je trouve que les femmes se lancent plus dans ce genre d'expérience que les hommes. Il y a toujours un petit peu de retenue. Il y a toujours un petit peu bon. Voilà. Alors qu'ils ont tort, hein, parce que franchement, ils peuvent participer à ça, vraiment. Hein.
Alors, on n'a pas encore fait la statistique homme-femme là sur les plus de 300 personnes qui sont inscrites. Enfin, sur un peu le premier trimestre, je regardais vite fait hier soir justement, et je trouvais que du coup la tendance, elle était quand même assez équilibrée.
D'accord.
Voilà. Okay. Ça, voilà. Après, je vais le faire sur l'année. On va le faire. Mais c'est vrai que ça questionne par contre la notion d'engagement. On s'engage vraiment sur quelque chose parce que c'est une chaîne humaine, on y tient. Si on s'engage, on le fait et on le fait jusqu'au bout. Donc, parce qu'il ne faut pas vraiment casser cette chaîne humaine, ça demande aussi un engagement du temps, de son corps. Oui, c'est un projet aussi qui dans ce sens-là, questionne de qu'est-ce que c'est s'engager aujourd'hui.
Le message également, la relation, enfin, les différences hommes-femmes, on vient d'en parler. Moi, ce que j'ai noté aussi, c'est que c'est des gens qui sont, comment dire, la quarantaine, 50 ans. On n'a pas de jeunes aujourd'hui, j'en ai pas vu, moi, des jeunes de 20 ans, 25 ans, etc.
Décidément, on a Paul Emmanuel et en dehors de tous les critères, là.
Non, mais voilà, je suis un homme jeune, je n'aurais pas dû faire ce projet.
Mais c'est vrai que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas assez, il me semble, vu de ma fenêtre.
Très bien, je propose que nous poursuivions cet échange autour des veilleurs et puis de vos expériences et de vos visions de ce projet autour des veilleurs. On fait une pause musicale avec Barrington Levy. C'est un choix de Paul Emmanuel. Deux petits mots peut-être sur ce choix musical.
Non, mais c'est juste une musique que j'avais envie d'écouter, qui me motive et qui me met de bonne humeur. Donc je la partage avec vous.
Here I Come, Barrington Levy, un excellent choix.
Shoot a little up, shoot a little up, whoa, you. said she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't work, run up the stairs and come. And if it don't come quick, you're not gonna know that son. So I grab a bunch of rows and I started to run. Here I come, whoa. 2 months later, she said, come and get your son, cause I don't want your baby to come tie me down. Now because you are old and I am young, yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shoodly waddle diddly woodly diddly whoa. Swing, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Yes, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. When you go to Volcano, it's like a stage show. You have man that sing, DJ and blow. Pull it down the journey, oh. She didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't run, run up the stairs and come. And if it don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of rows and I started to run. Here I come, oh. 2 months later, she said, come and get your son, cause I don't want your baby to come tie me down, cause you are old and I am young. Just while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shoot it. Extra size, extra size, extra size than size way. Extra broad, extra broader than Broadway. And the intercom rose, they tell me to come. Said she didn't have a daughter, she did have a son. Here I come. Shoodly waddle diddly woodly diddly whoa. Swing, cause I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Yes, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Over the ocean and over the sea, all of the girls, them are both for we. Ooh-ee, shoodly waddle diddly diddly whoa. Sing, and the intercom rose, they tell me to come. Said she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't work, run up the stairs and come. Cause if you don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of roses and I started to run. Later, she said, come and get your son, cause I don't want your baby to come tie me down, cause you are old and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shoodly rap, boop, boodly diddly, whoa. Swing, cause I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. I'm broad, I'm broad. And over the sea, ooh-wee. All of the girls, them are both for we. Ooh wee, shoodly waddly diddly waddly whoa. Here I come, here I come, shoodly waddly diddly whoa.
Barrington Levy, Here I Come, un choix de Paul Emmanuel pour cette programmation musicale. Nous sommes toujours avec Yannick, Paul Emmanuel et Catherine, veilleurs d'Evreux ou futurs veilleurs d'Evreux, pour poursuivre cet échange. Moi, il y avait une notion qui m'a interpellé lors de ce premier plateau, lorsque nous avons échangé, c'était cette notion de déconnexion, parce qu'on laisse à l'entrée de cette cabine de veille, comme on l'appelle.
L'objet, la cabane. La cabane.
On l'appelle comme on veut.
On l'appelle comme on veut.
Très bien. Donc cette cabane de veille, j'aime bien moi la cabane de veille. Mmh. Donc à l'entrée de cette cabane de veille, on laisse la montre, c'est-à-dire le repère dans le temps. Et puis on laisse aussi appareils photo, smartphone ou autres qui sont les outils hyper connectés. Et tout à l'heure Yannick, vous nous disiez, voilà, on laisse les objets de connexion, on laisse la connexion à l'entrée. Mais finalement, est-ce que c'est pas une autre forme de connexion qui se passe et peut-être une forme dont on a moins l'habitude peut-être en termes de connexion, qui demande peut-être un effort de connexion du coup. Je sais pas, là, jette ça en l'air, je sais pas si... Ouais.
Non, il y a une connexion avec ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'il y a quand même une vision sur la vie de la ville, soit qui s'éveille ou qui s'endort, suivant l'heure de la journée, mais on est connecté à la ville. Quelque part, on se reconnecte à la ville, alors qu'avec tous les outils et les objets qu'on a aujourd'hui on est connecté, mais à plein de monde, alors que là, on se reconnecte à sa ville ou à ce qui se déroule devant nos yeux. Après, il y a une autre connexion que l'on n'a peut-être plus l'habitude d'avoir, c'est la connexion à soi-même. C'est-à-dire que je pense que dans la vie quotidienne, on s'oublie. Et là, par cette expérience, on se reconnecte à soi-même, par ses pensées, par voilà, on est connecté à soi-même. Alors après, on peut penser de la relation qu'on a avec cette ville, qu'on a eue, tout ce qu'on y fait ou pas. Voilà. Donc c'est d'autres connexions en tous les cas.
Paul Emmanuel.
Ouais, j'avais trouvé absolument génial le fait que, comme je le disais, l'objet est éclairé, donc le veilleur apparaît, se découpe assez distinctement dans l'horizon, on peut dire. Et en fait, il y a énormément de personnes qui s'arrêtaient pour regarder et qui me faisaient des signes. Et en fait, je me suis rendu compte, surtout les petits-enfants, ceux qui devaient passer, j'imagine, de façon quotidienne à cet endroit-là, ben en fait, ont pris l'habitude de voir une silhouette à cet endroit-là, et s'arrête, et puis il y a un échange, alors on fait un signe de la main, et il y a une forme de connexion vraiment avec les gens qui se fait comme ça, et j'avais trouvé ça très très intéressant.
Alors c'est drôle parce que moi justement je me suis fait la réflexion du coup où je me suis dit mais finalement personne ne lève le nez en l'air. Ouais, et ça m'a vraiment surprise en fait lundi matin. Du coup, moi j'observais et je me suis aperçue que personne ne levait le nez finalement et que tout le monde était. Alors effectivement, c'était pas aux mêmes horaires non plus puisqu'on suit l'éphéméride. Mais là, j'étais moi sur un horaire où les gens étaient vraiment dans l'activité. Hein, on était autour de 8h30, donc il fallait pas être en retard à l'école, fallait pas être en retard au travail. Et ça s'est senti dans les déplacements et dans la frénésie en fait de la ville. Et je me suis dit mince. Mais personne n'a levé le nez. Et finalement, je me suis dit, oui, mais toi, quand tu es sur la place du marché, est-ce que tu regardes en l'air? Alors que pourtant, le projet, je le connais. Et ben, je me suis aperçue que même moi, je ne levais pas le nez. Et voilà, du coup, ça m'a fait réfléchir à tout ça, ou justement, comment on fait attention aux autres et comment on essaye un peu de s'ouvrir à ce qui se passe autour de nous et qui est au-dessus de notre vision classique. Quoi.
Finalement, tu étais cachée, mise en évidence.
Ouais, oh, c'est beau.
Mais non, il y a un petit côté
oui,
comme ça, parce
ça.
Que finalement,
ouais,
c'est tellement mis en évidence que finalement, dans le quotidien, on finit par être caché, quoi,
ouais,
en étant
ouais.
en évidence.
Ouais.
Oui, Paul-Emmanuel.
Je dirais peut-être que c'est les adultes qui oublient de regarder en l'air, parce que moi, c'est principalement les petits-enfants qui levaient la tête. Et je me souviens qu'il y en a plusieurs, puisque je l'ai fait entre 8 et 9 heures, donc la sonnerie de 8h30 à l'école est arrivée en plein milieu. Et je voyais plein d'enfants qui étaient visiblement en retard, avec les parents qui couraient un peu en traînant l'enfant. Et les petits qui s'arrêtaient et puis qui regardaient quand même et qui prenaient le temps de faire un signe de la main. Donc oui, je pense qu'il y a un rapport à l'espace qui évolue peut-être avec l'âge aussi.
Pour témoigner de cette expérience de veilleur, pour l'avoir fait un soir. Et là moi, c'était, ce qui était assez incroyable, c'était les habitants de la place Clémenceau, où moi j'avais vraiment au début de la veille, quand je suis arrivée, paf, j'ai vu les rideaux. S'ouvrir, les fenêtres s'ouvrir, et puis il y en avait un qui a fait « Ah oui !» Et j'ai perçu, c'est « Ah oui, il est bien là, c'est l'heure !» Et donc voilà, en fait, quand ils étaient rythmés, j'ai senti que les habitants, là, qui étaient au même niveau quasiment de fenêtres, me disaient « Bon, bah c'est bon, le veilleur est là, ça peut partir. » C'était le chrono. Donc c'est rigolo, parce qu'en fait, quand ça connecte aussi les gens à un autre temps, à une autre temporalité, à une autre notion aussi du temps qui n'est pas du coup celui de la montre, mais voilà, il y a les habitudes. Je sentais qu'il y avait un rythme d'habitude qui se prenait sur la place. Donc, voilà.
Moi, je voulais questionner cette notion de temps aussi, parce que ce n'est pas anodin de laisser la montre avant de rentrer dans cet espace, parce que bon, déjà d'une, on ne peut plus être oppressé par le temps. On vient de confier le temps à l'accompagnateur. C'est l'accompagnateur qui dira quand est-ce que ça fait une heure, on peut arrêter sa veille. Du coup, on lui a confié cette notion du temps. Donc, on en est totalement dégagé, finalement, de cette notion de temps quand on est dans la cabine. Comment ça s'appréhende? Et puis, est-ce que ça génère quelque chose pour le veilleur? Peut-être pas forcément la même chose en fonction des veilleurs, d'ailleurs, hein, mais voilà. Est-ce que ça génère cette notion d'oublier le temps? Parce qu'on n'a pas l'habitude d'oublier le temps.
Ouais, je pense que chacun vit ça différemment, mais c'est vrai que Ce que je disais tout à l'heure, c'est que au début ça va vite parce que il y a plein de choses à découvrir, plein de choses nouvelles à découvrir, des paysages nouveaux, de détailler un petit peu ce qui s'offre à nous, à la fois sur vers Netreville, mais également vers les coteaux de Saint-Michel derrière, puisqu'on est sur l'ouest derrière. Et puis après ça va moins vite parce que vous êtes face à vous-même, et je crois qu'il faut aussi le dire, c'est que des fois on a peur d'être face à soi-même parce que ça peut bouleverser les choses ou se reposer des questions, etc. Mais je crois qu'il y a ça, mais il y a aussi la relation avec ou pas avec la ville dont je parlais tout à l'heure, qui est aussi importante, où vous pouvez vous rappeler des souvenirs, des moments importants, des moments de tristesse. Et cette notion de temps, en fin de compte, elle est toute relative. Ça dépend comment vous appréhendez la chose, comment vous la présentez, comment vous la vivez. Voilà, je crois qu'il faut vraiment... il faut le vivre. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Enfin, voilà, il faut vivre l'instant, il faut vivre cette heure.
Paul-Emmanuel, peut-être sur cette notion de temps, comment vous l'avez vécu ?
Exactement à l'opposé, en fait. Donc voilà, c'est ça dépend vraiment des personnes. C'est-à-dire que moi, en rentrant dans la cabine de veille, donc, j'ai trouvé le temps très long. C'est-à-dire pendant les 5, 10, 15 premières minutes, c'était long. Mais c'était long. Enfin, j'arrivais pas à me fixer sur quelque chose, à regarder quelque chose avec suffisamment d'attention pour le trouver intéressant. C'est-à-dire que mon regard balayait un peu partout, mais finalement, j'avais l'impression qu'il ne se passait rien. Et en fait, au fur et à mesure, les choses s'accéléraient, ça allait de plus en plus vite. Et en fait, quand mon accompagnatrice est venue me dire que la veille était terminée, je pensais qu'il me restait encore au moins une demi-heure devant moi. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, ça s'est accéléré de façon incroyable, et que même si j'ai mis beaucoup de temps avant de prendre mon rythme, en fait, une fois que j'étais dedans, que j'avais vraiment changé mon état d'esprit et que je me disais, voilà, je suis dans l'objet, je regarde la vie des gens, enfin, je regarde comment ça se passe, et bien là, tout s'est mis à aller très 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 vite, et en fait, chaque petit détail qui était a priori insignifiant me paraissait digne d'intérêt et passionnant, et en fait, je me suis tellement passionné pour ça que je voyais plus du tout le temps passer à la fin.
Catherine, est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez, cette heure, justement, puisque quand on ne l'a pas encore fait, voilà, on ne sait pas encore ce que ça va générer. Est-ce que c'est une forme d'appréhension ou au contraire,
du tout.
Pas du tout.
Ah, alors là, du tout, du tout. J'adore le temps qui passe, j'adore regarder, je sais que je vais me raconter des tas d'histoires, c'est vrai. Et ce que moi, j'espère, comme c'est quand même couché ou lever, la luminosité, c'est ça que je voudrais voir aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'on est déçu ? T'as été déçu ?
Alors, moi j'ai adoré ma veille, mais d'un point de vue de la luminosité, c'était un matin, il y avait du brouillard. donc en fait, mon champ de vision, c'était la place, point. C'est-à-dire que j'étais incapable de... À la fin de la veille, je voyais vaguement le toit de l'hôtel de ville et les coteaux de Saint-Michel. Mais c'est tout.
Bon, alors, moi, ça serait ça que je vais appréhender. C'est est-ce que je vais avoir de la lumière ? Voilà. Mais sinon, j'aurai une lumière intérieure.
Voilà, c'est le plus important.
C'est vrai que, pour ajouter cette problématique de luminosité, bon, ça, c'est la loterie. Hein. N'empêche que quand vous allez sur le site internet Éveilleur d'Évreux, vous avez tous les commentaires déjà de tous ceux qui sont passés. Voilà. Et puis, vous avez les photos qui ont été prises par l'accompagnateur, puisqu'on prend bien sûr le veilleur, mais l'accompagnateur, il met sa petite touche et pour prendre une photo alors, de ce qu'il veut. Voilà, ça peut être l'objet abri, ça peut être le beffroi, ça peut être ce que vous voulez. Et il y a quand même des super photos qui ont été prises. Pourtant, l'appareil n'est pas... C'est pas un top, hein, mais franchement, il y a des superbes photos, des super couches de soleil qui ont été prises en photo. Et ça, c'est à découvrir sur le site Les Veilleurs d'Évreux.
Moi, j'avais une autre question là sur la répercussion de votre expérience de veilleur ou de future veilleuse. Est-ce que ça génère quelque chose autour de vous, près de vos entourages, quand vous avez parlé ? Enfin, voilà, qu'est-ce que ça provoque chez les autres, indirectement, directement ?
Alors, moi, j'ai une copine, parce qu'on en a parlé dernièrement, puisqu'on est trois à le faire. Et elle a dit, mais ça sert à quoi ? Alors j'ai dit ah, rien. C'est ça qui est bien. Pour une fois. Voilà.
Oh, moi j'en ai parlé autour de moi et ça suscite de l'intérêt chez les gens. Peut-être aussi une certaine incompréhension parce que effectivement ils disent mais pourquoi en fait, enfin mais concrètement ça sert à quoi? On dit bah, justement à rien, et c'est ça qui est bien, c'est ça fait du bien de rien faire.
Ouais, je crois qu'on a plus l'habitude justement de rien faire. Et quand vous passez à la retraite, je suis à la retraite, je viens de retraiter, c'est vrai que ne rien faire, c'est quand même, ça peut être pesant. Donc, j'entends l'appréhension des gens, dire mais ça va servir à quoi ? Après, il faut être dans l'explication. C'est pour ça qu'on disait en aparté tout à l'heure, mais je pense que ce projet-là, il est difficile à expliquer par l'écrit. Je crois qu'il faut vraiment être dans une discussion très ouverte et qu'à un certain moment, on puisse répondre concrètement aux détails de cette expérience. Moi, tout simplement, en termes d'anecdote, moi, quand j'en ai parlé à mon entourage, ils m'ont dit « Ah, ça y est, t'as trouvé un nouveau boulot, tu vas être veilleur de nuit maintenant. » Donc voilà, ça suscite de l'intérêt en tous les cas et pas d'indifférence.
Alors, moi, je voulais rappeler, c'est vrai que cette expérience, on est veilleur qu'une seule fois, c'est une expérience unique. Voilà, si vous choisissez votre jour, votre heure, c'est une expérience unique. Après, les gens me disent « Oh, est-ce que je peux veiller encore le soir ? J'ai pas fait le soir. » Non, non.
Et c'est pour après, ça c'est chez vous.
Après, c'est chez vous. Vous continuez l'expérience comme vous voulez, mais non, non, c'est dans l'objet abri, c'est une seule fois. Après, vous pouvez accompagner, évidemment, vous pouvez du rôle de passer du rôle de veilleur à celui d'accompagnateur et être engagé dans le projet d'une autre façon. Voilà.
Je crois que nous avons fait le tour. Non, on pourrait, je pense, en discuter encore un bon moment. Mais le temps qui nous était imparti, s'est écoulé. Merci beaucoup à vous, Paul-Emmanuel et Catherine, d'avoir témoigné sur vos expériences. Je vous garde juste un petit instant, Yannick, parce que c'est à vous qu'on a confié la pause musicale qui va clore notre échange. Donc, juste avant de vous remercier, un petit mot sur votre choix, Parov Stellar.
Bon, non, c'est un groupe que j'ai découvert cet été, donc j'étais assez attiré par tous les instruments de musique, puisqu'il n'y a pas de paroles. Je trouve ça assez dynamique et plutôt sympa. Voilà.
Eh ben merci à vous, Yannick. Merci. Vous étiez aussi veilleur et accompagnateur sur ce projet. Merci à vous trois. Nous recevons Jimmy Fauvel, programmateur du silo à nos micros. Bonjour Jimmy.
Bonjour, le principe actif.
Alors Jimmy, vous êtes programmateur à la salle du silo à Verneuil-sur-Avre depuis le printemps dernier. Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'échanger à l'antenne à nos micros. Donc en un premier temps, on voulait savoir un petit peu qui était Jimmy Fauvel, d'où venait-il, que faisait-il et un petit peu qui vous étiez.
D'accord, alors moi je suis arrivé à Verneuil-sur-Avre, d'Avre dit-on maintenant, le 21 juin, donc c'est tout récent, juste avant le festival Les Mauvaises Graines. Je suis originaire de Bolbec, une petite bourgade de 12 000 habitants à proximité du Havre. Donc voilà, Havrais d'adoption, hein. Et puis d'ailleurs mes collègues, coéquipiers et amis me reprochent souvent d'être un peu chauvin. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, comme quelqu'un de 38 ans à notre époque, hein, un parcours assez décousu, mais assez logique au final. J'ai travaillé dans la musique actuelle depuis tout jeune, puisque j'ai fait partie des gens qui ont monté une structure qui s'appelle l'association, enfin la fabrication maintenant, du côté de Bolbec, qui existe maintenant depuis 22 ans. Donc voilà, parallèlement à ça, j'ai fait des études pour être technicien du spectacle, où j'ai bossé essentiellement sur la région du Havre et dans le nord de la France en tant qu'intermittent. J'ai fait mes premières armes, dans tout ce qui est centre chorégraphique, donc de la danse contemporaine, où j'ai eu l'occasion de bosser avec des grands chorégraphes. Voilà ce qui m'a permis d'apprendre la lumière plus particulièrement. Et puis après, j'ai un peu fait mes armes, dans la musique actuelle, comme je disais tout à l'heure, parallèlement aussi à mon petit métier amateur de musicien.
Donc, ah bah justement, voilà. Justement, ça faisait partie des choses que nous voulions savoir. Vous êtes musicien actuellement, sur quel instrument et éventuellement sur quelle formation, si ce n'est pas indiscret?
C'est pas indiscret du tout. Ça a duré. En fait, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelle Alcaïs, qui était un groupe de musique instrumentale assez violente, on va dire, plutôt dans le réseau indépendant. Ça a duré 12 ans. Donc voilà, on a eu l'occasion de faire des tournées en France, en Europe, et puis, on a fait beaucoup de camions. Du coup, je jouais de la basse, et la formation s'est finie en 2012. Donc voilà, une plutôt bonne carrière. C'est pas une carrière parce que j'étais pas professionnel, on était plutôt dans le circuit amateur, mais on a bien vadrouillé et vécu beaucoup de moments camion, comme je disais. C'était plutôt intéressant. Ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup sur comment on doit accueillir des groupes dans une salle de musique.
Bah oui, forcément. Quand soi-même on a été accueilli, ça amène à avoir une vision de quel accueil on veut avoir dans la salle que l'on programme.
Je voulais revenir. Les petites attentions qui sont très importantes.
Exactement. Je voulais revenir sur notamment la fabrication. La fabrication avait un regard tout particulier sur la scène normande, si je ne m'abuse. Oui. Ça colorise également votre vision d'une programmation d'une salle comme celle du silo.
Ah bah oui, complètement, puisque la fabrication, dont j'ai fait partie et je fais toujours partie des membres du bureau, valorise plutôt la musique actuelle régionale. Moi, j'ai tendance à être plutôt content quand on s'occupe des groupes en région, et puis quand il y a un groupe de la région qui s'en sort et qui représente la Normandie, hein, puisque maintenant c'est la Grande Normandie, et c'est très bien. Et du coup, le développement artistique pour moi est primordial. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'au silo, le projet m'intéressait, pas parce qu'il y avait que des concerts, mais aussi parce qu'il y a toute une entité derrière qui est une MJC. D'ailleurs, donc il n'y a pas que le côté concert, il faut le signaler, c'est une MJC avant tout, mais il y a aussi le développement artistique des groupes de la région, donc sous forme de résidence, d'accompagnement et de locaux de répétition. Voilà, la boucle est bouclée.
Ce qui est assez cohérent du coup à la fin.
Comment ?
Du coup, ce qui est assez cohérent, effectivement, une fois que nous constatons que la boucle est bouclée. Justement, sur la programmation, là, vous venez de finir la programmation, vous l'avez fini en tout cas il y a peu de temps, la programmation du deuxième semestre qui va avoir, enfin non, du premier semestre 2018, qui va avoir lieu au Silo à Verneuil-sur-Avre. On aurait bien aimé avoir un petit peu quelle est la philosophie de cette programmation, et puis, j'imagine qu'elle est en lien avec votre propre philosophie de ce que doit être une programmation. Quelle est la philosophie globalement, et puis éventuellement un ou deux éléments un peu plus forts que vous auriez envie de souligner sur ce premier semestre 2018 au Silo.
La philosophie de la programmation. Donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai un peu analysé le fonctionnement de la structure et fait connaissance avec les protagonistes, qui y travaillent. Et on avait envie de se lancer sur quelque chose de plutôt fou. Donc voilà, avec des soirées locomotives avec des artistes un peu plus connus, mais quand même axés sur la découverte, voilà. Mais des choses un peu folles et des soirées à thème. Donc il y aura par exemple des soirées cabaret. Donc soirée cabaret, ce sera pas des soirées cabaret où les gens viendront danser, etc. Enfin, soirée cabaret, c'est-à-dire que les gens pourront venir en mode assis autour d'une table à discuter après le travail. Donc ce sera des soirées le vendredi soir, pas tard puisque le concert commencera à 20h dans le club du Silo. Et ce sera des formules plutôt blues, dirty blues, folk et chansons. Avec, on proposera des petites choses à grignoter locales. Donc, j'ai envie de faire découvrir le tissu local aux gens. Donc, c'est important parce que voilà, c'est un de mes fers de lance, c'est le développement durable. Voilà, je pense que c'est important pour tout le monde en ce moment. Puis des soirées à thème. Alors, il y aura la soirée Ouf Party. Alors, la soirée Ouf Party, ce sera avec un groupe qui s'appelle Schlass. Voilà, un groupe de Saint-Étienne qui fait du hip-hop complètement déjanté, avec un DJ derrière eux qui a des instrus complètement folles. Il y aura l'idée super le 3 mai, et ça, je suis impatient de l'accueillir parce que ça va être quelque chose de complètement fou aussi. Et puis il y aura par exemple les mauvaises graines d'hiver où des groupes du coin joueront en première partie d'un groupe qui s'appelle Psychotic Monks, pourquoi hypnotique, parce que c'est hypnotisant, et ce sera de la musique plutôt rock'n'roll stoner avec des touches de psyché. Et puis on aura un temps fort, mais ça c'est beaucoup plus loin dans la programmation, c'est au mois de juin. C'est une surprise, je dirais juste que le thème c'est Silo plage. Voilà. On s'est dit, il y a Paris plage, Rouen plage, et nous on va faire le Silo plage.
C'est vrai que ça allait même jusqu'à Louviers, il y avait le Louviers plage, donc voilà, il y aura le Silo plage. Nous y reviendrons bien entendu quand il sera l'heure d'y revenir, parce que dans les cartons en préparation, il y a des programmes radio que nous devrions réaliser ensemble. Mais ce n'est pas l'objet de notre échange. Je voulais revenir du coup plus précisément sur la programmation du mois de décembre, parce qu'il y a au moins trois rendez-vous à ce qu'on a en tout cas nous découvert.
Il y aura le 10 décembre un artiste qu'on aime beaucoup, enfin moi je le connaissais avant, et aussi c'est quelqu'un de très connu, qui s'appelle Merlot, qui vient faire un spectacle pour les petits, et c'est donc le 10 décembre à 15h, c'est 5€. Et puis il y aura le Père Noël est un rocker le 16 décembre à 20h, ouverture des portes. Donc c'est 5€ ou un jouet, et ce sera en partenariat avec le Secours Populaire d'Évreux. J'ai juste une petite chose à rajouter.
Oui.
C'est que cette année, et je tiens à le souligner, en 2018, pardon, nous accompagnons un petit jeune de Danville qui fait de la musique, et ça s'appelle Earplugs, donc un artiste à suivre aussi.
Très bien. Eh bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de la programmation rapide qui va arriver en décembre, et puis nous aurons l'occasion d'échanger tout au long de l'année sur les programmations un petit peu plus larges, en tout cas celles qui vont jusqu'au mois de juin. Et de toute façon, maintenant que nous avons fait connaissance, nous échangerons régulièrement, Jimmy.
Eh bien, j'espère, puisqu'on est tous actifs par principe, comme vous dites.
Très bien, bah, merci beaucoup Jimmy d'avoir échangé avec nous à nos micros sur l'actualité à venir du silo. Merci Jimmy. Et pour conclure cette émission, il est l'heure de retrouver notre agenda non exhaustif, bien entendu, mais c'est une espèce de sélection finalement.
Ouais, alors sélection dans un agenda hyper riche là en ce mois de décembre. Ça commence dès demain avec Pouette au Cube. Pouette, c'est François Hadji tu comprends au montage, c'est
carrément
énorme, même
pas. Non, carrément pas.
Vas-y, François Hadji Lazzaro.
Voilà, François Hadji Lazzaro.
Merci Nat. Avec son spectacle pour enfants, bien sûr, mais pas que. Vous le savez, je le dis toujours, c'est jeune public, mais il y en a pour tout le monde et pour toutes les lectures. Ensuite, on accueille à Évreux le Alliance Tour, c'est-à-dire l'esprit du clan Aléa Jacta Est et In Other Climes, le 9 décembre à partir de 20h au club. Au club, toujours le 16 décembre, on accueille la scène ouverte en partenariat avec la MJC. On accueillera aussi le Quatuor Tchalik le 5 décembre au Cadran. Du jeune public encore, et là, je dirais même du très jeune public, puisque c'est pour les enfants, à partir de 3 ans, avec Monstre, un spectacle de théâtre qui va travailler sur la peur. Voilà.
Et puis aussi, dès demain, journée cinéma consacrée à Ingmar Bergman, au Cinépathie d'Évreux, avec un spécialiste du réalisateur qui sera présent, que vous pourrez rencontrer, échanger avec lui autour de ce grand réalisateur et cinéaste.
On continue pareil ce soir à la Factory sur l'île du Roi du côté de l'Eripose. Cabaret Verbal, d'ailleurs principe actif, sera présent sur la soirée.
Tout à fait, vous pouvez nous retrouver sur les ondes en direct de la Factory, la maison de poésie, à partir de 19h.
Du côté de Verneuil-sur-Avre cette fois-ci, on retrouvera Marcel, le Père Noël et le petit livreur de pizza le dimanche 10 décembre à 15h au silo à Verneuil. Et puis toujours dans l'esprit de Noël, le Père Noël est un rocker le 16 décembre au silo à Verneuil-sur-Avre. Et puis juste avant les vacances, pour terminer la saison de 2017 en beauté, le Barbier de Séville au Cadran à Évreux.
Au opéra participatif, vous pouvez chanter avec vos enfants en salle. C'est comme un grand karaoké opératique sur le Barbier de Séville.
Un karaoké opératique. Ah ouais, alors ça, c'est formule, la classe. Ouais. Ça, c'est plutôt la classe. Voici pour notre agenda non exhaustif. Et nous passons maintenant à notre court extrait de cinéma, ce qui nous laisse l'opportunité de vous dire au revoir. Prochaine date, c'est premier vendredi du mois de janvier. Cécile n'est pas certaine que ce soit le premier vendredi du mois de janvier. Ah oui, parce qu'on tombe sur les vacances scolaires.
Voilà.
Premier ou deuxième vendredi de janvier, vous retrouverez Scène de vie, vie de scène, bien entendu.
Oui, puis avant de lancer l'extrait de film, inscrivez-vous sur les veilleurs, allez voir sur les veilleurs d'Évreux, le site, et puis choisissez votre jour, votre date. On vous y invite.
Et nous nous quittons avec un extrait de film, c'est Marvin j'ai perdu mon fil, ou La Belle Éducation.
Voilà.
De Anne Fontaine qui sort cette semaine.
Ma mère, elle ne soupçonnait pas du tout ce qui m'arrivait au collège.
Qu'est-ce que t'as sur la figure, toi ? Il y a eu de la baston ou quoi ?
Elle me posait pas de questions, elle était pas très attentive.
Qu'est-ce que t'as encore le squelette, c'est pas bon ?
J'ai pas attendu une fois.
Qu'est-ce que vous faites là, Bijou ?
J'ai raté le bus, madame.
Vous n'allez pas rester là à traîner comme ça.
Tu veux essayer, Marvin ?
Essayer quoi ?
D'improviser.
T'appelles ça un manque, toi ? Une vraie gonzesse, vous avez fait de lui, sérieux ?
Tu te rendrais la journée, t'es même pas foutu d'aller chercher Marvin !
Le moins vivant cramera pas une goutte d'essence pour ces conneries de théâtre. Pourquoi il nous fout la honte comme ça aussi avec sa manière de peiner ?
Je me suis sauvé pour devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire soi-même.
Puisque vous êtes comme moi, faites quelque chose de votre différence.
Bravo ! Belle éducation !
Isabelle Huppert.
Bonjour.
Marvin. Tu verras, c'est un garçon très intéressant.
Mais j'en doute pas.
Quel est votre rapport avec le théâtre ?
Je fais fait un seul en scène.
Votre avis compte énormément pour moi.
D'où ça vient ça? D'où le tien sale? J'ai cogné moi? Moi ouais, j'étais cogné moi.
C'est nos vies que tu traînes dans la merde. T'es en train de nous tuer tous.
C'est pas plutôt l'inverse? C'est pas plutôt vous qui avez essayé de me tuer moi?
Je vous aime comme vous êtes. C'est pas ce qu'on est qui compte. C'est ce qui est au fond de nous.
Avant des couilles, hein, pour faire ce que t'as fait.